Vous allez dire, je ne suis pas foulé parce que j'ai pris un thème très simple, David et Goliath. Vous allez dire, ben, c'est incroyable, il nous fait l'école du dimanche. Profite que les enfants ne soient pas là pour nous faire l'école du dimanche. Non, je vous promets, je ne vous amène pas des dessins, vous n'allez pas faire. Mais en relisant ce texte, moi, il m'a beaucoup impacté. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'enseignements, en tout cas pour moi, qui étaient très importants. Si vous n'avez pas été à l'école du dimanche, ou si vous ne vous souvenez plus ce qui s'était passé, pour reprendre un tout petit peu le contexte, nous sommes sous le règne de Saül, il y a des guerres, et Saül est le premier roi d'Israël, et les Philistins font la guerre aux Israéliens, et il y a les deux armées qui sont face à face, chacune sur une colline, chacune sur une montagne, et un homme des Philistins sort, il est immense, on parlera de lui tout à l'heure, Goliath, et met au défi l'armée d'Israël en disant « Qui parmi vous est capable de me battre ?» Et pendant 40 jours, matin et soir, il vient, il insulte. Il insulte le peuple d'Israël, il les traite de chiens, ils disent qu'ils sont des esclaves de Saül, ils essayent de mettre la zizanie dans le camp adverse, et personne ne bouge, personne ne dit rien. Tout le monde se tait. Pourtant, cette armée avait déjà connu des grandes batailles, des grandes victoires, et tout le monde est tétanisé devant cet homme. Oui, il est immense. Mais le peuple d'Israël avait connu dans le passé des événements importants, impressionnants. Et ils avaient réagi. Et là, un peuple paralysé. Muet. Il y a des généraux qu'on voit dans Samuel. Hein, vous pouvez relire tout ça dans le livre de 1 Samuel et 2 Samuel. Il y a des généraux. Saül est un grand guerrier, un grand chef d'État, un grand militaire. Tout le monde se tait. Une simple accusation d'un homme les met à genoux. Et c'est dans ce contexte que vient un jeune homme, sans formation, sans qualification, sans apparence, qui n'a même pas été recruté pour être soldat, qui est berger. Et je ne sais pas, il y a un mois, je vous ai expliqué que les bergers n'avaient pas une très bonne réputation. Ce n'était pas le haut du panier. Qui est simplement là pour faire de l'intendance et amener à manger à ses frères. Un homme se lève et dit non. Et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Cet homme, bien sûr, c'est David. Mais c'est quand même tout à fait incroyable. C'est une histoire que nous connaissons tous, qui est rentrée dans la légende populaire. Elle est digne des films. Il y a eu beaucoup de films de faits. Mais quelle histoire ? Et quel enseignement pour nous, et nous pouvons tirer de cette histoire et de David ? Une chose est claire, déjà, je pense à ce verset. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est peut-être la première leçon que nous pouvons... Ah non, ça ne marche pas. Ah, ça marche. Ah, voilà. Allez, David. Ah, voilà. Donc là, c'était l'introduction. C'est vachement bien. Hein. C'est moi qui fais ça, en plus. Il est écrit juste avant, et c'est de cela que nous allons parler, que David dira « Je me suis exercé dans le désert ». Dieu nous prépare dans le désert et les plus grands combats de nos vies se font dans le secret. Ça, c'est la première leçon qu'il faut que nous apprenions de ce passage. Oui. Tout ce qui brille n'est pas de l'or et tout ce qui se voit n'est pas la réalité. Et beaucoup de choses se font discrètement et qui sont importantes et qui sont vraies. David avait déjà été choisi par Samuel pour être roi, et par Dieu. il aurait pu considérer, à partir du moment où il a été appelé, qu'il avait un ministère. Et quel ministère ? Et qu'il était, c'était fini pour lui d'être berger, de s'occuper de moutons. Il était roi d'Israël. Première leçon, il a été fidèle dans les petites choses. Il n'a pas cherché à saisir, et Franck l'a dit hier, à se draper dans son ministère pour dire « mais Dieu m'a parlé, Dieu a dit ça ». Il a fait les choses très simplement, il a fait les choses ce qu'on lui a demandé de faire. C'est un grand enseignement pour chacun d'entre nous, d'humilité, d'obéissance et d'être fidèle dans les petites choses. Le Seigneur Jésus le dira très souvent. Tout se commence par le petit pour aller au plus grand. Tout commence par l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Tout commence à l'intérieur de nous. Et les plus grandes batailles, et là je parle pour moi-même, mais peut-être que vous êtes concernés, ça a toujours été avec moi-même que nous avons à mener, avec notre caractère, avec nos défauts, avec nos difficultés, avec nos craintes, avec nos peurs. C'est là que les vraies batailles se mènent. Il y a les choses visibles, mais il y a le vrai travail intérieur de nous, à l'intérieur de nous. Dieu nous prépare dans le désert et les plus grands combats sont dans le secret de notre vie. Ça a été vrai pour David, ça a été vrai pour Paul, parti 14 ans en Arabie. Personne ne saura ce qui s'est passé pendant 14 ans en Arabie pour lui. Mais on sait simplement que c'est dans ce temps-là que Dieu l'a parlé, que c'est dans ce temps-là que Dieu s'est révélé, que c'est dans ce temps-là que Paul a eu des révélations incroyables et qui ont permis de le tenir pendant tant d'années. Non seulement il a été dans le désert, il a obéi, mais il a combattu. Il a combattu contre les ours et les lions. Je ne me suis jamais retrouvé devant un lion féroce. Je ne me suis jamais retrouvé devant un ours féroce. Je crois que c'est encore peut-être plus impressionnant. On voit ça dans les films. Mais David s'est retrouvé dans ces situations-là. Qu'est-ce qu'il a appris dans le désert ? Qu'aucun ennemi est invincible. Aucun ennemi est invincible. Tout est possible. C'est en exerçant le combat qu'on devient un combattant. C'est en pratiquant qu'on grandit. C'est en pratiquant la foi qu'on grandit dans la foi. C'est en pratiquant jour après jour que nous grandissons et que nous apprenons. Il ne suffit pas de proclamer qu'on a la foi, il faut la pratiquer. Et trop souvent, on a tendance, drapé dans notre ministère, à étendre des drapeaux de victoire sur des terrains où il n'y a pas eu de bataille. On proclame des victoires alors que nous n'avons même pas combattu. Il a combattu. Il a appris à se battre. Et puis, il y a la fronde. Et je trouve que c'est intéressant. La fronde, c'était effectivement une arme de berger à l'époque. C'est une arme très courante. On l'a utilisée même dans l'armée. C'est une arme très efficace. Et il y a des écrits, etc., montrant que les ravages que pouvaient faire des régiments de frondeurs, enfin de frondeurs, oui, pas des manifestants, je ne sais pas si vous voyez, pouvaient être terribles dans les rangs de l'armée, de l'adverse. C'était très efficace. Vous avez essayé de tenir une fronde ? Vous avez essayé de tirer avec ? Bon, je ne suis pas sûr que je serais encore là si j'avais essayé. Parce que, quand même un risque quand même réel que la pierre vous tape dedans. Pour réussir ce qu'il va faire avec Goliath, combien de fois il a utilisé la fronde avant ? Combien de fois il a dû essayer la fronde ? Combien de fois il a dû faire des tirs ? Une fois ? Deux fois ? Mille fois ? Des centaines et centaines et centaines de fois. C'est dans l'exercice qu'on apprend à gagner. C'est en pratiquant Et compris dans les échecs, j'imagine que les premières fois qu'elle a dû tirer, sa pierre, elle devait aller n'importe où. L'efficacité d'une fronde ne fonctionne que si on a une habileté extrême. Et si, au premier coup, et il savait très bien qu'à Goliath, il aurait le droit qu'à un seul coup, comme avec un lion, que ça toucherait. Pour cela, il faut l'avoir pratiqué, pratiqué, pratiqué. Et c'est ce qu'a fait David dans le désert. Il a pratiqué. Et il a été dans des échecs. Mais il a pratiqué. Deuxième chose qu'il a appris dans le désert, il défend son troupeau. Il était appelé à roi. Ben, il a estimé que la première chose qu'il était à défendre, c'est de défendre ses moutons. Et Dieu n'aurait estimé que s'il n'était pas capable de défendre des moutons, il n'aurait pas été capable de défendre des hommes. Ça paraît simple. Mais est-ce que dans les choses pratiques, y compris matérielles, je prends soin des choses que Dieu me donne ? J'aspire à recevoir des choses plus importantes ? Est-ce que je prends soin déjà des choses que Dieu me donne maintenant ? Aujourd'hui ? Ou est-ce que je vis dans le rêve du jour où je serai roi ? Il a défendu son troupeau, mais non seulement il a défendu son troupeau, mais il a pris les risques de perdre sa vie. Et là, on voit combien il est une image du Christ, de perdre sa vie pour défendre son troupeau. Il a pu dire, bon, j'ai 200 moutons, je ne vais pas perdre ma vie pour un mouton. Je dirais ça. Voilà, ma vie est plus importante. En plus, je suis roi, je suis juste roi, le monde entier m'attend, etc. C'est pour ça que c'est trop bête que pour un petite brebis égarée, je perde ma vie. Le plan de Dieu est beaucoup plus important que je vive, que je m'occupe de ce bouton. Il n'a pas réfléchi de cette manière-là. Il n'a pas calculé. Il voyait un ennemi, il lui sautait à la gorge. Il a pris des risques. Il s'est battu. Il a pris le risque de mourir pour ses brebis. Comme Jésus le fera. Et puis, le dernier point, on voit ça, je ne vous ai pas relu tous les versets, mais il le dit à Saül, et ça c'est peut-être très fort aussi, même s'il s'est exercé, et donc dans sa technicité, dans son intelligence, des centaines et millions de fois à la fronde, qu'est-ce qu'il dit ? L'Éternel m'a secouru. L'Éternel m'a sauvé. L'Éternel m'a donné la victoire. En toute occasion, il redonne à Dieu la gloire qui lui vient. Et il ne se dit pas, quand il va voir Saül en disant, j'ai tué des... Il dit, regarde comme je suis fort, j'ai déjà tué, je suis meilleur. Il dit, non, Dieu est le meilleur. Là aussi, quelle leçon pour chacun d'entre nous. Dieu est le meilleur, pas moi, Dieu. Et l'exercice que j'ai fait, la pratique que j'ai fait, les efforts que j'ai faits, ne sont pas en aucune manière une raison pour moi de me glorifier. Voilà, dans cet état d'esprit, je vous ai fait voir quand même, c'est pas très sympathique. Donc la question, en terminant cette première partie, c'est quels sont les ennemis de notre vie ? Quels sont les ennemis, les ours et les lions que nous avons à combattre ? On en a tous. Chacun. Maladie, inquiétude, caractère, situation financière. Tous, nous avons des ours et des lions. Comment je me comporte dans le secret de ma vie ? Comment je me comporte dans le secret de ma chambre ? Comment je me comporte ? Bien sûr, quand je vais commencer ma fronde, les premières fois, je vais louper mes traits. Est-ce que je vais me décourager ? Ou est-ce que je vais persévérer ? Et quand je réussis, est-ce que je vais dire, ouais, maintenant, ça y est, je suis arrivé. Quand on se dit ça, enfin, en tout cas moi, ça ne dure pas longtemps et c'est le meilleur moment pour que ça se plante. Et puis peu à peu, et je l'ai vu moi dans ma propre vie et je suis étonné des fois, mais il faut du temps à dire, ah ouais, j'avais ce type de problème. J'avais cet ours qui traînait dans ma maison. Il n'est plus là. Des fois, on se dit, mais tiens, je ne me suis même pas rendu compte qu'il était parti celui-là. Ça, c'est les vraies victoires de Dieu. C'est quand elles sont parties, ouais, mais Dieu, voilà. Puis, pendant une époque, cet ours, qu'est-ce qu'il était dans nos pattes? Puis un jour, il n'est plus là. Il dit, ah Seigneur, merci Seigneur, parce que c'est vrai, je ne me suis pas découragé, mais c'est la victoire. C'est toi qui as eu la victoire. Alors, quand même, la confrontation entre Goliath et Saül. Goliath et Saül, oui, c'est intéressant. Bah, oui, on va parler de Goliath et Saül, et de David et de Goliath. On l'a dit, 80 fois, Goliath met au défi le peuple d'Israël. Oui, c'est un géant. Il fait plus de 3,50 m. Il porte une armure de 82 kg. Et sa lance fait 10 kg. Vous imaginez, alors je n'ai pas fait d'études, et puis je ne suis pas très bon en physique. L'autre jour, mon fils a voulu me faire expliquer des choses. Je dis, ça y est, c'est fini. Troisième, la physique, c'est fini. J'arrive à mon niveau, là, je ne peux plus. Mais bref, ben vous savez que quand on lance quelque chose, la force va plus vite, etc. Donc 10 kg lancés de toute force, sur 100 mètres, ça fait une force à l'arrivée extrêmement forte. Et ça détruit un homme. Oui, les généraux et Saül avaient peur. Peut-être, et on ne va pas faire l'histoire de Saül, peut-être parce que justement Saül, lui qui était un grand guerrier, qui était fort physiquement, il a mis plus de force, il a regardé les choses avec ses yeux physiques, charnels, humains. Il s'est comparé. Moi, je fais 1 mètre. Il était très grand. On disait que c'était le plus grand. Peut-être qu'il faisait 2 mètres 5 ou 1 mètre 98. Et que d'habitude, il se sentait à l'aise dans les combats. Et là, ah, ça ne vous est pas arrivé des fois, en pensant que vous comptez sur votre force et que vous vous retrouvez dans une situation en disant, ah oui, mais là, je croyais que j'étais fort, mais ça ne sert plus à rien. Et Dieu, très souvent, nous met dans des situations où justement, si on se croit fort, et plus vous vous croyez fort, enfin, je ne veux pas vous être désagréable avec vous, mais plus vous vous croyez fort, plus Dieu va vous mettre dans des situations où il vous mettra devant des gens plus grands que vous. Et là, vous ne pourrez plus compter sur vous-même. Et puis, c'est vrai, et on l'a vu dans les chapitres précédents, Saül a commencé à garder la gloire pour lui et non pour Dieu. Ce qui est intéressant aussi dans cette histoire, c'est que personne ne croit en David. Pas ses frères. Il aurait pu attendre des soutiens, des encouragements. Mais au contraire, il entend de la jalousie, du reproche. C'est dur quand même. Enfin, ce que dit son frère. C'était quand même, aujourd'hui on appelle ça une famille dysfonctionnelle. Va vous rappeler l'histoire. Dieu parle à Samuel, dit va voir cette famille, il y a un fils que tu vas bénir. Samuel y va, on lui présente tous les enfants, et Dieu dit à Samuel, aucun de ces enfants n'est celui que j'ai choisi. Et là, il dit au père, mais ils sont là tous, là, tous tes fils? Ouais, ouais, ils sont tous là, ouais, ouais. Ouais, oh, bon, non, pas tout à fait. Il y en a un, oui, mais bon, c'est pas quoi. C'est pas qui. Le texte nous dit pas. Il y avait deux femmes, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, bref, il n'était pas au même niveau que les autres. Il avait été rejeté dans son enfance, enfin, qu'on puisse dire. Enfin, je ne sais pas si vous, il y a un repas de famille, on fait venir quelqu'un d'important, puis vous restez au fourneau, ou, je ne sais pas comment vous le vivez. Le rejet, il a pu le connaître, Samuel. Enfin, il a pu le connaître, il l'a connu. David. Il l'a connu, David. Et donc, Samuel va oindre devant ses frères, avec des paroles incroyables, David. Ça n'empêche pas ce frère, quelques années plus tard, lorsque David veut parler, et il dit quoi? Il dit simplement, pourquoi vous ne faites rien. Et son frère le traite d'orgueilleux. Ça fait penser à Joseph et ses frères. Là aussi, j'ai une question qu'on peut se poser les uns et les autres, y compris dans l'Église. Comment je regarde quand quelqu'un, Dieu a parlé à quelqu'un, puis pas à moi? Je suis jaloux ou je le bénis? Je dis, oh, celui-là, il est orgueilleux. Comment je vis ça? Vous savez quand même que c'est un peu la base de l'antisémitisme, de l'antijudaïsme. C'est l'élection. Pourquoi lui, il a été choisi et pas moi? Pourquoi ce peuple a été choisi et pas moi? Je vous dis ça en parenthèse. Hein. Mais c'est une réalité. Est-ce que je me réjouis de ce que Dieu fait du bien à autrui? Ou est-ce que je suis en train de dire, pourquoi lui et pas moi? Pourquoi lui est béni et pas moi? Pourquoi lui, il a une belle voiture et pas moi? Pourquoi ça m'arrive toujours à moi? Des questions qu'on peut légitimement se poser. Donc David, il a affronté, avant d'affronter Goliath, il affronte déjà ses frères et tout son peuple qui ne croit pas en lui, qui ne lui fait pas confiance. Et puis, il va y avoir l'attitude de Saül. Saül n'est pas dans une position de le critiquer. Mais Saül ne peut pas imaginer que ce gamin puisse gagner. Il reste avec ses yeux. Et Saül, ce qui est bien d'une certaine manière, mais maladroit, va lui proposer de porter son armure. Si tu fais faire la même chose, il faut que tu fasses comme moi. Si tu veux devenir leader, il faut que tu fasses comme moi. Il faut que tu prennes mes vêtements. Il faut que tu prennes ma cravate. Il faut que tu sois exactement comme moi. Tu peux réussir que si tu es comme moi. C'est des situations qu'on peut connaître, y compris dans les églises. Et c'est une question qu'on doit se poser. Est-ce que parce que ça s'est passé comme ça il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, on va demander à nos jeunes de porter l'armure que nous avons portée il y a 30 ans? C'est une question. Alors c'est bien, enfin, il y en a un certain nombre qui sont là, mais d'autres ne sont pas là. Donc c'est bien, on peut en parler librement, entre guillemets. Mais non, ça concerne tout le monde. Mais c'est une vraie question qu'on doit se poser en tant qu'Église. Est-ce que je fais porter des poids en disant, mais dans le temps, on faisait les choses de cette manière-là. Nous, on a été bénis de cette manière. Ben oui, amen. Et lui, il sera béni d'une autre manière. Et son choix, et Dieu choisit une manière très différente. Et combien de fois dans les églises? Pour parler très concrètement, parce qu'on peut pas, mais c'est vrai ailleurs, mais on parle de nous-mêmes. C'est facile de parler des autres, c'est toujours bien de parler de soi-même. On fait porter, y compris aux plus jeunes, dans la foi ou physiquement, en disant, ah mais ça doit être comme ceci. Moi, j'ai fait comme ça. Donc il faut faire pareil que ce que j'ai fait. Ou c'est pareil que ce que nous avons fait, nous. Lorsqu'on est père et mère, on découvre que ça ne se passe pas vraiment comme ça. Et mon but, ce n'est pas que les gens reproduisent ce que je suis. Comme je dis à mes enfants, moi j'ai toujours envie, c'est qu'ils aillent plus loin. Mais avec leurs armes, avec leurs moyens. Et donc, Saül lui propose son armure. Et David, qui est quand même honoré, parce que c'est l'armure du roi, c'est un peu l'onction du roi. Il la porte. Mais Saül faisait mettre. Alors, pardonnez-moi, parce que les chiffres. On va dire qu'il fait 1m95 et puis que David peut-être faisait 1m70. Ben, vous imaginez bien qu'en termes d'habileté, ça ne fonctionnait pas. Et ça, c'est intéressant. Ce que va faire David, parce que ça montre à la fois qu'il est rempli d'esprit et intelligent. Pourquoi? Parce qu'il se dit, moi je dois aller avec les armes qui sont les miennes. Peut-être que d'autres, c'était bien. David, il avait raison, Saül avait raison d'avoir son armure. C'était ce qu'il fallait pour Saül. Mais moi, cette armure, elle n'est pas pour moi. Ce n'est pas mon armure. Moi, j'ai besoin d'avoir mes armes à moi. Et les armes avec lesquelles j'ai connu des combats, avec lesquelles j'ai gagné. Et c'est vrai pour chacun d'entre vous. C'est dans les choses que vous avez, c'est avec les armes que vous, qui sont les vôtres, sur lesquelles vous avez déjà exercé, que vous pourrez être efficace. Pas d'en prendre les armures de l'autre, ou des manuels, ou des vidéos. Je l'ai dit déjà plusieurs fois, ce n'est pas parce que ça marche ailleurs que ça va marcher avec vous. Il n'y a pas de photocopieur dans le ciel. Il n'y a pas un photocopieur du réveil dans le ciel. En disant, faites voilà, c'est pas parce que je prends aucun nom d'église, peu importe. Mais chaque église, chaque personne est différente. Et Dieu fait différemment. Et là où David est intelligent, c'est la fronde. Parce qu'au fond, c'était la seule façon de tuer Goliath. Alors vous dites, ah oh ouais, mais il a pris la chose la plus facile. Mais en réalité, c'est la lame la plus intelligente. Il ne fallait surtout pas s'approcher de Goliath. Il ne fallait pas être surtout pas dans un combat rapproché. Personne n'avait de chance dans un combat rapproché avec Goliath. Tout le monde allait mourir. Et il fallait effectivement être loin. C'est pas simplement oh, t'as vu, il a. Non, c'était très intelligent. Mais pensez à un roi qui avait. Vous voyez, c'est la guerre de 100 ans. Le roi de France était très riche, avait une grande chevalerie. C'était les chevaliers les plus beaux de la terre, les plus forts. Les Anglais n'avaient pas beaucoup d'argent et pas beaucoup de chevaliers. Alors, c'est vrai. Alors le roi d'Angleterre s'est dit, ben, je n'ai pas de chevalier, mais j'ai des paysans qui savent qui tirent en permanence le gibier dans les forêts de Sherwood. Et le roi il a dit, ben, je vais mettre des archers. Ça ne coûte pas cher, c'est facile à faire. Et je vais mettre des archers. Et il a décimé la chevalerie française avec les archers anglais, bien connus, Crécy, Gazincourt. Mais c'est ce qu'a fait David. C'est très intelligent ce qu'il a fait. La seule façon de faire tomber ce géant, c'était de le prendre de loin. Ah, il n'avait pas de fusil de sniper, il n'avait pas. Donc le sniper de l'époque, le fusil à lunettes, c'était la fronde. Parce qu'il s'était exercé dans le passé. Donc il savait que la vraie arme qu'il pouvait gagner, et peut-être que quand il disait « Mais pourquoi vous ne vous battez pas ?» Parce que lui, il avait déjà pensé qu'il y avait une solution. Mais là, de nouveau, c'est très intéressant parce que combien l'association entre l'intelligence et la foi est essentielle. Hein, je me rappelle Christophe avait fait un très bon enseignement, moment de pub, intelligence et foi. Mais combien là, on voit l'intelligence de David, et qu'on verra tout le temps, et sa foi. Parce qu'à la fois, il y a une tactique militaire intelligente, et quand on va à l'armée, il vaut mieux avoir une bonne tactique, et la foi. Mais ce qui est remarquable aussi, c'est sa vision à David. Parce que lui, il voit l'enjeu spirituel. Goliath insulte le peuple. David ne dit pas qu'ils ont été insultés, il dit « Dieu a été insulté ». C'est Dieu qui a été insulté. Lui, il voit l'enjeu spirituel qu'il y a derrière. Il voit que l'enjeu, c'est entre Satan et Dieu. Et que les paroles de Goliath sont des paroles démoniaques. Il voit l'enjeu. Il ne s'arrête pas seulement à l'aspect matériel, il l'a analysé. Il ne s'arrête pas à l'aspect militaire, même s'il l'a bien analysé. Il voit aussi l'enjeu spirituel. Et il pose le niveau au niveau spirituel. Et il dit, il insulte l'Éternel des armées. Laisserez-vous insulter l'Éternel des armées? Est-ce que, là aussi, question, on vous pose des questions, mais vous réfléchirez. Est-ce que je pose la question comme ça, y compris des fois, par rapport à moi-même, par rapport, est-ce que je dois, ah oui, mais bon, mais c'est compris quand on critique, qu'on accuse l'Église, tout ça. Est-ce qu'on voit les choses de manière matérielle ou est-ce qu'on voit l'enjeu spirituel qui est derrière? Donc David, avec son arme, pas vous raconter toute l'histoire, vous la connaissez. Et puis, va faire tomber Goliath. J'ai lu un peu, en préparant ce message, les psaumes de David. Avec Dieu, nous ferons des espoirs, écrit-il en psaume 60. On lira après le psaume 144. Combien, quand il va chanter les gloires de l'Éternel, ce qu'il va vivre, ce qu'il va dire, n'est que le résultante de sa vie et de sa réalité. Alors, j'ai mis cette photo. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez, mais bon, c'est une photo de chariot de feu. Qu'est-ce qui fait courir David? Qu'est-ce qui doit nous faire courir? Parce qu'il court vers Goliath. Peut-être nous, on a couru dans l'autre sens. Mais lui, il court. Il y en a plusieurs. Son amour de Dieu. Son amour de Dieu, en priorité. Son amour qui lui donne du zèle. Vous savez, le zèle, c'est jaloux. C'est-à-dire celui qui est amoureux. C'est parce qu'il est totalement amoureux de Dieu et qu'il voit le défi qui est porté contre le peuple de Dieu et donc contre Dieu qui se lève. C'est cet amour qui lui donne la foi, sa pleine assurance. Sa foi ne vient pas de manière méthodique, elle vient d'une relation d'amour, d'intimité avec Dieu, y compris qu'il a construit dans le désert, qu'il a construit dans la solitude. Y compris quand, après cet appel, un homme selon le cœur de Dieu, c'est un homme qui aime Dieu. Alors pour conclure, peut-être certaines leçons que nous pourrions apprendre, que nous pouvons apprendre de cette histoire, c'est que nous pouvons aller avec nos armes, choisir nos armes et pas celles des autres. Ne pas faire comme les autres. Mais faire avec ce que les dons et les qualités que Dieu vous a donnés. Et Dieu, apparemment, lui a donné une qualité d'être habile à la fronde. Et vous avez chacun d'entre vous des qualités qui sont différentes et des dons différents que Dieu vous a donnés. Et c'est ces dons et ces qualités que Dieu veut que vous ayez. Pas avec les dons des autres, pas avec des dons que vous voyez dans les livres, mais avec les vôtres. Et chacun, vous êtes différent. La deuxième chose, c'est que même si j'ai des dons, même si j'ai des qualités, même si je peux avoir plein de dons, plein de qualités, être conscient que toujours la victoire appartient à Dieu. Que tout cela n'est que de Dieu. Se concentrer sur l'essentiel. Goliath, il y en a plein dans cette société et dans ce monde. C'est le type même du monde de violence animé par un esprit opposé à celui de Dieu. Il est la provocation et l'adversité. Et nous pouvons en voir toujours autour de nous. Face à cela, nous avons à être David, homme de foi, qui relève des défis les plus insensés par amour, prêt à perdre sa vie pour l'honneur de Dieu. Oui, nous sommes appelés à être des David. Et je crois très profondément que nous sommes dans un temps où Dieu appelle des David et à vous lever comme des David. Arrêtons de penser qu'on est petit. Arrêtez de penser que les églises sont trop petites. Arrêtez de dire, je ne supporte pas quand on dit il y a trop de monde dans l'église. Je ne supporte pas, je vous le dis. On est trop nombreux. Il y a 150 000 personnes qui crèvent de faim et d'amour et on est trop nombreux. Non, mais il faut arrêter un jour. Il faut être lucide. On ne peut pas dire des choses pareilles. Ou alors c'est parce qu'on pense qu'on est fier du nombre. Ça n'a pas de sens. Ce qui est important, c'est qu'on n'est jamais, qu'on n'a plus honte d'être petit. On n'est pas petit. Nous devons être des hommes et des femmes qui face aux Goliath d'aujourd'hui. Et ils sont nombreux, et vous les connaissez, à la fois dans la société et dans notre vie personnelle. Et je pourrais en citer nombreux, mais je ne vais pas le faire. Nous sommes appelés à nous lever et à être des champions. Des champions qui courent, comme on voit dans les chariots de feu, des champions qui ne regardent pas à droite, qui ne regardent pas à gauche, mais qui, avec les armes que Dieu nous donne, travaillons. Je voulais terminer en lisant, parce que je trouvais très beau, le psaume 144. Et on va le lire, écrit par David, en pensant à cette histoire. Alors, l'histoire, à quel moment exactement ce psaume est écrit, c'est avant ou après. On peut estimer que c'est plutôt après. Il dit, « Bénis l'éternel mon rocher qui exerce mes mains en combat. » Oui, David a exercé ses mains en combat. « Mes doigts à la bataille. Mon bienfaiteur est ma forteresse, ma haute retraite, mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge et qui m'assujettit. Enfin, l'Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses, le fils de l'homme pour que tu prennes garde de lui. L'homme est semblable à un souffle, ses jours sont comme de l'ombre qu'il passe. L'Éternel abaisse tes cieux et descend, touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Fais briller les éclairs et disperse mes ennemis. Lance tes flèches et mets-les en déroute. Étends tes mains d'en haut, délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux de la main des fils de l'étranger. » Vous voyez comment ces paroles étaient le fruit des combats de David. Tout cela, il l'avait vécu. Ce n'étaient pas des mots qu'il chantait le dimanche matin. C'était le fruit de ses batailles, de ses échecs, de ses victoires, mais de sa réalité, de sa vérité. « Dieu, je te chanterai un cantique nouveau, je te célébrerai sur le luth à 10 cordes. Toi qui donnes le salut au roi, qui sauva du glaive meurtrier David, ton serviteur. » Qui sauva du glaive meurtrier, David, ton serviteur. « Délivre-moi, sauve-moi de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté et dont la droite est une droite mensongère. Nos fils, » tiens, il parle de la jeunesse, « sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. Nos filles, comme les colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. Nos greniers sont pleins, regorgeant de toute espèce de provisions. Nos troupeaux se multiplient par milliers, par 10 000. Dans nos campagnes, nos génisses sont fécondes, point de désastre, point de captivité, point de cri dans nos rues. » Amen. Point de désastre, point de captivité, point de cri dans nos rues. Amen. C'est ça le peuple de Dieu. C'est ça nous. Donc tout simplement, avant de prendre le repas, le Seigneur propose simplement que nous puissions méditer tous ensemble et individuellement sur comment aujourd'hui je suis David. Dans le désert, face aux ours, avec les armes qui sont les miennes, en courant pour mon Seigneur. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ce que tu veux nous enseigner, ce que tu veux dire à ton assemblée. Merci Seigneur parce que, oui, nous voulons comme David. Tu nous as appelés, tu nous as élus, tu nous as choisis. Pas simplement pour qu'on reste, mais pour qu'on exerce au combat, afin que nous puissions terrasser les Goliaths dans nos vies et dans le monde. Parce que tu vois, Seigneur, tous ces Goliaths, même s'ils nous insultent nous, ou qu'ils insultent le monde et les gens, c'est toi qu'ils insultent. Et par amour de toi, nous voulons aller au combat. Amen. Soyez bénis, mes amis. Je te laisse la suite.